Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Je pense que certains ici savent ce qu'est un homme sandwich. C'est une personne qui a disparu et qui déambulait dans les rues en portant des panneaux publicitaires, un devant, un derrière. C'est comme ça qu'on avait imaginé la publicité entre les deux guerres. L'intérêt des réseaux sociaux comme Facebook, c'est que chacun est un homme sandwich, évidemment, malgré lui et sans le savoir, et au bénéfice des réseaux sociaux. Donc, acceptez-vous ceci, d'être un homme sandwich. Alors, le problème du droit de l'homme sandwich, c'est qu'il nourrit l'économie libidinale. Au fond, si les gens sont sur Facebook, c'est d'abord par vanité. Vanité d'être soi-même, d'être mieux connu. Et bien entendu, vanité de colporter toute une série de marques. Autrement dit, on est dans une ère de communication et de la société qui est tout à fait extraordinaire. Il suffit effectivement que les gens se branchent sur l'Internet et aussitôt, à moindre frais, à moindre coût, les marchands peuvent se précipiter sur les gens qui, au fond, sont et deviennent des proies extrêmement faciles. À vous de choisir, bien entendu. Alors, s'agissant de l'exposé suivant, on va voir si dans la vie professionnelle, les gens acceptent d'être des hommes sandwich, alors qu'ils le sont dans la vie privée. Et donc, je passe la parole à M. Ngounou.
Merci, M. Châtillon, pour cette transition. Je ne sais pas s'il faut répondre homme sandwich ou pas. Donc, la question est vraiment posée dans le monde professionnel et l'intervenante de tout à l'heure a bien fait de préciser. Il faut mesurer ses propos. Elle a parlé du cas du salarié qui a été licencié en raison de ses propos sur Facebook. Et ça me sert de transition parce que le salarié, avant tout, est un citoyen. Il a le droit d'aller sur Internet, d'aller sur Facebook, mais ces droits sont bien évidemment encadrés. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur la vie privée et la vie professionnelle dans l'ère numérique. D'emblée, je dois vous dire que c'est un thème assez vaste, beaucoup d'articles, beaucoup de cas de jurisprudence. Et donc, il y a énormément de choses à dire. J'ai essayé de faire une petite synthèse pour qu'on essaie de comprendre en quoi cette problématique est de plus en plus actuelle. Alors, la problématique, vous vous en doutez, c'est comment protéger la vie privée du salarié tout en respectant le droit de l'employeur de contrôler l'activité de son entreprise. Soyons déjà d'accord sur le thème, la vie privée, qu'est-ce qu'on entend par vie privée? On peut dire la vie privée, c'est la vie personnelle, c'est la vie familiale, c'est la vie conjugale. C'est tout ce qu'une personne veut garder intimement, ce qu'elle ne souhaite pas communiquer à autrui. La vie privée, contrairement à ce que vous pouvez voir, c'est l'opposé de la vie privée, ce n'est pas la vie professionnelle, c'est bien la vie publique. Donc la vie privée, c'est un ensemble de libertés individuelles et collectives qui sont dues à toute personne, peu importe que cette personne soit salariée. Et donc nous allons très rapidement voir le contenu de la vie privée, le contenu relatif au travail. On voit déjà en première liberté, la liberté d'opinion et de pensée. Et le code de travail le dit bien, personne n'a le droit de connaître ce que pense un salarié. Il ne peut être contraint d'aucune manière ni de dire quelle est son opinion, ni de penser comme son employeur. Vous avez la liberté de réunion, de manifestation. Et là, le code de travail le reprécise que les réunions syndicales sont possibles au sein de l'entreprise en dehors des heures de travail. La liberté de culte, c'est le droit pour le salarié de ne pas être discriminé en raison de ses convictions religieuses. Le véritable problème qui se pose aujourd'hui, c'est beaucoup plus relatif à la liberté d'expression, parce que le salarié est avant tout lié à son employeur par un lien de subordination. Il faut savoir quoi dire, mesurer ses propos. Donc, c'est vrai, le code du travail accorde au salarié le droit de dire ce qu'il pense, mais encore une fois, doit-on tout dire et le dire n'importe comment? Nous avons vu dans les propos, dans les interventions tout à l'heure, que la liberté d'expression, contrairement aux États-Unis, en France, n'est pas sacralisée. La jurisprudence admet l'abus de la liberté d'expression. Là, je vous prends deux exemples très récents. Pourquoi? Parce que c'est des exemples récents et c'est surtout c'est des exemples qui ont fait l'objet de médiatisation. Sur le plan privé, je vous cite le cas du webmaster de TF1 qui a été licencié l'année dernière pour avoir envoyé un mail à sa députée pour faire part de tout ce qu'il pensait par rapport à la loi Hadopi. Et donc, le mail est passé de sa députée au cabinet du ministre de la Culture et s'est retrouvé dans les mains du directeur de TF1. Bon, conséquence, le salarié a été viré. Sur le plan public également, les fonctionnaires ont droit à l'expression, même si l'obligation de réserve leur est souvent imposée. Et donc, je vous cite l'exemple du gendarme Jean-Hugues Matéli, qui, au mois de mars, a été radié du corps de la gendarmerie nationale pour avoir, déjà en 2007, critiqué les chiffres, les statistiques qui permettaient de calculer les chiffres de la délinquance. Et en 2008, il a critiqué en 2008, il a critiqué le rapprochement de la gendarmerie et de la police. Donc, encore une fois, on peut dire, le salarié a le droit de dire, mais il faut savoir mesurer ses propos. Et aujourd'hui, la liberté d'expression pose énormément de problèmes avec le numérique. Pourquoi? Parce que le blog, les réseaux sociaux offrent aux salariés une possibilité de pouvoir dire ce qu'il disait avant dans un cadre beaucoup plus large. L'écho, la portée, l'ampleur des propos qui étaient tenus devient, avec les nouvelles technologies, beaucoup plus intense. Et là, ça pose énormément de problèmes pour l'entreprise en termes d'image et en termes de réputation. Donc là, je vous ai cité quelques arrêts. La société Nissan, par exemple, qui, dont un ancien salarié a sur son blog critiquer la politique en disant, par exemple, chez Nissan, la parité bafouée. Donc, ça a fait l'objet d'une procédure. Et en l'instance, le tribunal a estimé que la liberté d'expression devrait primer sur le droit de marque qu'invoquait la société Nissan. Je vous prends également, vous vous souvenez du site internet jeboycottedanone.com qui a été créé par l'intersyndicale Voltaire pour exprimer le mécontentement par rapport à la politique de licenciement dans l'entreprise. Donc, il y a énormément de cas où la jurisprudence admet soit la liberté d'expression au profit de salariés et d'autres cas, il y a des cas où la jurisprudence se contente de reconnaître que le salarié est allé au-delà de sa liberté d'expression. Je vous ai parlé, le cas d'admission jurisprudentielle de l'abus de la liberté d'expression, la cassation sociale du 28 avril 1994. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la récente décision de la Chambre sociale du 15 mai 2008, là où la Cour de cassation reconnaît que le salarié ne peut pas tenir des propos injurieux ni à l'encontre de son entreprise, ni à l'encontre de ses salariés, de ses collègues. En l'espèce, le salarié avait tenu des propos tels putasserie, attitude dégueulassante et faux cul, collabo de classe, visant d'autres salariés de l'entreprise. Et donc, vous vous doutez bien que la jurisprudence ne pouvait pas admettre que des propos pareils soient tenus par le salarié au nom de la liberté d'expression. Donc là, c'est des exemples de refus, des exemples jurisprudentiels de refus d'abus de la liberté d'expression seulement sur l'année 2009. C'est donc dit combien la liberté d'expression pose problème et où les interventions, les décisions jurisprudentielles sont assez nombreuses. Alors, la vie privée est garantie. Elle est garantie par un certain nombre de textes nationaux et internationaux. Moi, je vous ai donné un certain nombre de dispositions sur le plan international. L'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 8 de la Convention, la recommandation du Conseil de l'Europe relative à la protection de la vie privée, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la directive 95. Donc, vous avez énormément de textes internationaux et aussi sur le plan interne, l'article 9 du Code civil, le Code du travail, tout ça a été évoqué tout à l'heure et je ne vais vraiment pas m'appesantir. La question qui se pose, effectivement, c'est comment garantir aux salariés le respect de sa vie privée dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Comment préserver en même temps les intérêts de l'employeur qui est contraint pour des raisons de performance, pour des raisons de sécurité, de contrôler l'activité de l'entreprise. Et cette question se pose davantage avec les technologies de l'information qui offrent à l'employeur des outils performants, des outils discrets de pouvoir surveiller non pas seulement l'activité de l'entreprise, mais aussi le salarié dans tous ses faits et gestes. Donc ça, c'est la véritable question qui se pose et je pars sur le principe que l'employeur a le droit de contrôler son salarié. Pourquoi il a ce droit? Déjà parce que c'est dans le contrat de travail qui crée un lien de subordination. Ce lien de subordination suppose une dépendance juridique. L'employeur a autorité sur le salarié. Le lien de subordination suppose également une dépendance économique. Le salaire que l'employeur verse au salarié constitue très souvent son seul moyen de subsistance et donc le salarié se trouve en quelque sorte soumis à son employeur. Et le contrôle des salariés par l'employeur est souvent justifié pour des raisons de sécurité. L'employeur ne doit pas laisser tout individu s'introduire dans les locaux de l'entreprise. Et donc très souvent, ils utilisent des badges, de la vidéosurveillance pour empêcher l'accès des intrus dans l'entreprise. Donc pour des raisons de sécurité, nous pouvons évoquer le fait que les outils informatiques, l'employeur doit veiller à ce que empêcher que des virus, des chevals de Troie ne puissent s'introduire dans le système informatique. Et donc, pour toutes ces raisons de sécurité, l'employeur est tenu de contrôler l'activité informatique de l'entreprise. L'autre contrôle de l'activité de l'entreprise, c'est pour des raisons de rentabilité. Parce que l'employeur n'est pas simplement tenu d'avoir des résultats, il est également tenu de veiller à ce que ces résultats soient atteints. Et là, je vous ai relevé une étude de la société Orfeo qui, en 2009, montrait le taux d'utilisation d'Internet au travail pour des raisons privées. 67% du surf en France est personnel. Donc, le salarié utilise Internet pour ses raisons personnelles. Et ça, Orfeo en tire des conséquences. Cela représente 13,8% en 2009 de perte de productivité et cela coûte 5 semaines de congés payés en 2 mois et 2 mois de salaire par an et par employé. Donc vous vous rendez compte de ce que cela représente comme perte pour l'entreprise. Et seul motif de satisfaction, c'est que cela ne concerne pas uniquement la France. Au Canada, 66% du... Donc je vais essayer d'aller un peu rapidement. Alors 66% du surf, disais-je, personnel. Donc le contrôle de l'employeur, c'est effectivement et également pour éviter que soit engagée sa responsabilité, la responsabilité au terme de l'article 1384. Et toutes ces raisons-là, pour toutes ces raisons, l'employeur dispose des outils. Les outils, la vidéoprotection, des bases électroniques, des autocommutateurs téléphoniques, des logiciels de contrôle de productivité, cela permet à l'employeur de contrôler l'activité de l'entreprise et partant de contrôler le salarié. Alors, concrètement, légalement, que ce soit les dispositions de législatives ou des dispositions jurisprudentielles, le principe est acquis, le principe selon lequel l'employeur peut utiliser tout moyen pour protéger, pour contrôler l'activité de l'entreprise et le salarié, mais dès lors que ces moyens ne permettent pas de porter atteinte à l'intimité du salarié. Donc il y a deux principes qui ont été posés, un principe de loyauté et un principe de proportionnalité. Donc je passe un peu rapidement, mais ça c'est les articles du code de travail que vous pouvez retrouver assez facilement. Et je vous ai donné des exemples de surveillance sanctionnée hein, où la jurisprudence reconnaît qu'il y a eu abus de... Pardon. Donc, dans tous les cas, Le principe, c'est que l'employeur doit respecter la vie privée du salarié sur le travail. Donc, j'ai fait un petit historique pour montrer qu'il n'en a toujours pas été le cas et qu'avant 1945, le bon employeur, c'était celui-là qui veillait à ce que son salarié se sente bien, non seulement dans l'entreprise, mais également au-delà de l'entreprise. Alors, la question du respect de la vie privée du salarié dans l'entreprise à travers les outils informatiques se pose sur deux angles. D'abord, premièrement, le salarié est permis, est autorisé à utiliser l'outil informatique de l'entreprise à ses fins personnelles. Deuxièmement, la messagerie est permise. Le salarié peut utiliser la messagerie professionnelle de l'entreprise à ses fins personnelles. Donc, je vous ai illustré un peu pour ce qui est de l'utilisation informatique. C'est un principe de tolérance. L'employeur tolère, mais il faut que cette utilisation soit raisonnable. Donc, je vais aller très rapidement pour arriver au cœur même du problème, qui est la Réunicon. Non, c'est pas l'introduction. Là, le cœur du débat, c'est la Réunicon qui, en 2001, pose le principe selon lequel l'utilisation de la messagerie au niveau de l'entreprise est permise. Et donc, en ce moment, on a posé une présomption de professionnalité. Tous les fichiers et tous les mails qui se trouvent sur l'ordinateur du salarié sont réputés être des fichiers professionnels et dont l'employeur peut y accéder sans avoir à demander l'avis du salarié. Et donc, par contre, si ces fichiers ou ces mails portent la mention privée, familiale ou personnelle, l'employeur ne saurait y accéder que dans certaines conditions. Et dans ces conditions, il y a trois conditions qui ont été posées par la jurisprudence. Premièrement, l'employeur peut accéder aux fichiers et aux mails de l'employeur en présence de celui-ci ou s'il a été dûment appelé. Deuxième cas, l'employeur peut accéder aux mails et aux fichiers de son salarié en cas de risque ou événement particulier. Et troisième cas, en l'absence du salarié, s'il a obtenu une décision du tribunal. Donc ça, c'est des cas dans lesquels l'employeur peut accéder aux fichiers et aux mails de ses salariés sans que sa présence soit vraiment nécessaire. Donc, je vais conclure rapidement, et je suis désolé d'avoir dépassé. Juste des recommandations. Le salarié, qu'il soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, doit mesurer ses propos, doit savoir quoi dire, parce qu'avec le numérique, la portée de ses propos est beaucoup plus grande et donc ça peut porter préjudice à l'employeur. Et dernière chose, toujours concernant la conclusion, le cryptage des documents ou des emails n'est pas conseillé, parce qu'en cryptant les emails, l'employeur peut se douter, peut avoir des doutes et donc envisager d'accéder au contenu de mail. Donc j'en ai terminé. Vous aurez l'intégralité de toute la présentation sur la publication qui vous sera faite. Merci de votre attention.